Eh bien, on sait. Alors voilà, chers auditeurs, Olivier Tournafond, dans cette émission Droit et Liberté consacrée au nouveau virus à la mode. Hein. Et là, parce que de temps en temps, la question des virus, vous remarquerez qu'il y a des grands pôles, des ce qu'on appelle des marronniers dans le jargon des journalistes. Alors, il y a les virus, il y a aussi l'éthique, ça on va en parler. Il y a la guerre en Ukraine, ça c'est un sujet alors là, qui est inépuisable. Et puis il y a bien entendu le détroit d'Ormuz, la guerre en Iran et les frasques de Trump. Alors ça tourne et on a le plaisir à cette émission qui est assistée par Marc de Staël de recevoir mon éminent collègue le professeur Perron, que tout le monde connaît, épidémiologiste célèbre, reconnu pour ses travaux et pour ses ouvrages aussi. Voilà, cher Christian, merci d'être venu. On va parler de ces nouveaux virus qui sont apparus, le hantavirus. Il y a Ebola qui fait de nouveau parler de lui. Et puis alors aussi, il y a des choses à dire sur les tiques, parce que vous êtes un spécialiste des tiques. Et on est allé à côté de Lyme, on est allé à Mount Kisco. Et ma femme a trouvé moyen d'attraper une tique.
Ah, ouais.
Et heureusement, on l'a identifiée tout de suite. Parce qu'elle a commencé à avoir une réaction inflammatoire avec, vous savez, un cercle blanc, un cercle rouge, un cercle blanc, c'est caractéristique. Et là, où j'ai dit, oh là là, mauvais, on a retiré avec un peu d'intelligence d'emmener des bagages. En principe, c'est absolument interdit, mais j'en avais un tout petit flacon. Et arrivée en France, elle a fait un traitement antibiotique et puis il n'y a pas eu de conséquences. Voilà. Mais on était à côté de Lyme. Moi, j'ai rien attrapé. Ben, je suppose que, je sais pas, peut-être que c'était des tics de gauche qu'ils ont senti un homme de droite, ça leur a pas plu. Et on trouvait que mon sang était impur. Mais ma femme l'a attrapé, ouais. Alors, peut-être qu'on peut parler d'abord du hantavirus, parce que, bon, pour le moment, ça s'est calmé, hein, vous avez remarqué, il y a une sorte de rémission. Mais on nous dit, attention, l'incubation est très longue, c'est 4 à 6 semaines, donc on ne peut rien garantir. Est-ce que ce virus est réellement apparu dans une décharge en Patagonie où des retraités, peut-être pas de l'éducation nationale quand même, des retraités hollandais étaient allés faire un reportage photo, ils auraient été en contact avec des rats contaminés? Il l'aurait ramené dans le bateau, il l'aurait transmis aux autres passagers, ou est-ce qu'il y a une autre origine possible? Je ne sais pas, cher collègue, professeur Perron, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci pour votre invitation. Juste une petite remarque, pour les auditeurs, je déconseille de mettre de l'éther sur les tiques. Il ne faut pas les endormir avant.
Bon, il ne faut pas les endormir?
Non, parce qu'elles déchargent leurs bactéries.
Mais je pensais qu'au contraire, si on les endormait, elles sont...
Non, parce que ça les stresse et du coup...
Qu'est-ce qu'il faut mettre alors?
Rien, il faut les...
Oui, mais on n'a pas toujours...
Il ne faut pas tirer dessus, parce que le rostre...
Il faut détourner.
Il y a des petits... comme des petits...
Oui, oui, oui.
Crochets anti-retour, oui, comme
oui,
sur
oui,
un harpon.
Oui, oui,
il faut la dévisser de gentiment, puis après désinfecter. Après, vous pouvez mettre de l'éther, de la...
C'est ça, donc il faut mettre de l'éther après.
Voilà.
Mais parce que nous, on a essayé de les retirer sans éther, et puis elles s'accrochent. Hein.
Parce qu'il faut la dévisser. Il faut la tourner.
Dans le sens d'une aiguille d'une montre ou à l'inverse? Les deux, c'est réversible. Voilà. Il n'y a pas un sens où on visse, il y a un sens où on dévisse. Non. Ben merci beaucoup.
Alors,
cher.
Je reviens à l'antivirus. Bon, moi, ça m'a fait... Ça m'a vraiment... je n'aurais pas fait rigoler, parce que c'était un peu tragique, mais...
Bah, ils sont morts quand même, ils sont quand même morts.
Comment?
Il y en a deux qui sont morts quand même, deux ou trois.
Et je dis que c'est tragique, et je plains ces pauvres personnes.
Oui.
Il y a trois morts, je crois.
Oui, trois morts,
et pour trois morts, on fait un état d'alerte mondiale, pandémie, alors que des morts d'antivirus, il y en a régulièrement depuis des décennies qu'on connaît ce virus, et personne ne fait un pataquès pareil. Alors, je plains les pauvres victimes, je plains leurs familles, c'est triste, mais en Afrique, il y a des milliers de gens qui meurent du paludisme tous les jours, on ne fait pas une émission spéciale à l'OMS.
Évidemment.
Et en plus, le paludisme, on pourrait régler ça avec l'artémisia, une plante naturelle. Nous, on avait publié là-dessus, on s'est fait rétracter sous la pression de tous les lobbies pharmaceutiques. Voilà, donc cet hantavirus, on le connaît depuis la guerre de Corée. Il existe depuis la nuit des temps. Il est chez les rongeurs. C'est plus les campagnols, les souris que les rats. Mais on peut le trouver chez les rats aussi de temps en temps. Et ce virus a été découvert, pas tout de suite, mais la maladie a été découverte quand les GIs faisaient la guerre de Corée là, dans les années 50. Ils crapahutaient dans des tranchées au contact des rongeurs. Et il y a eu beaucoup de malades et des morts. Et ils avaient appelé ça la fièvre coréenne hémorragique, parce que le virus asiatique donne des hémorragies, ce qui n'est pas le cas forcément.
Qui ne sont pas très graves d'ailleurs, d'après ce que j'ai
vu. Il y a des cas mortels et des hémorragies, mais c'est pas... Il y a probablement infiniment plus de gens contaminés que de gens qui font une forme symptomatique et de gens qui meurent, parce que c'est un virus qui est répandu dans le monde entier. Alors c'est toute une famille de virus cousins, quoi, dans les différentes souches. Donc, en Europe, alors, le virus a été découvert longtemps après la guerre de Corée, mais voilà, après, quand le virus était découvert, je ne sais plus, c'était dans les fins des années 70, début des années 80, on s'est aperçu qu'en Europe, et même en France, dans le nord de la France, surtout le nord-est, beaucoup de campagnols étaient porteurs de ce virus, et il y avait des petits foyers épidémiques, notamment un dont je me souviens bien, moi j'étais jeune assistant, c'était en... pas dans les fin des années, au milieu des années 80, il y avait eu un foyer avec quelques morts près de la forêt de Compiègne.
Ouais.
Et mon ami Eric Dournon, qui était un professeur de médecine qui m'a précédé à Garches d'ailleurs, et je lui rends hommage, mais il est mort jeune, c'est très triste, j'aimais beaucoup Eric Dournon. Il était toujours curieux de tout, et il avait investigué cette épidémie dans l'Oise avec un de ses amis. Et les villageois de la région disaient, mais tous les gens qui sont tombés malades récemment, ils sont allés dans telle grange près de la forêt, une grange abandonnée où il n'y avait plus de fenêtres ni rien.
Ouais.
Et donc, eux, ils sont rentrés pour investiguer. Quand ils sont rentrés, ils m'avaient raconté, il y a eu tous les pigeons qui nichaient là-dedans se sont envolés. Ça fait un nuage de poussière et ça a aérosolisé des déjections de rongeurs qui étaient sur les poutres. Et son ami, que je connaissais bien, est tombé très gravement malade.
Ah bah eux, ils l'ont attrapé du coup.
Lui, il ne l'a pas attrapé, comme la maladie frappe pas. C'est comme vous et les tiques, vous êtes résistants. Il y en a qui résistent à l'antivirus, pas d'autres. Et son ami a quand même fait quelques jours de réanimation. Bon, il s'en est sorti, heureusement. Alors, en France, les formes mortelles, elles ont été décrites, mais elles sont très rares en Europe. En Europe, il y a peu d'hémorragies, c'est surtout des insuffisances rénales aiguës. Donc, si vous avez accès à un rein artificiel pour quelques séances, en général, vous passez le cap. Il faut un petit peu de réanimation. Mais moi, en 40 ans, j'ai hospitalisé régulièrement quelques cas par an. C'est pas une maladie très fréquente. On n'a jamais pris une seule mesure d'isolement. En tout cas, les souches asiatiques européennes ne sont pas du tout transmissibles d'homme à homme.
Oui.
On ne prenait aucune mesure. Et puis, la plupart, tous les cas que j'ai soignés, d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'un seul qui soit décédé. Mais la souche virale...
Alors là, c'est les Andes, là. C'est la souche des Andes, oui.
On arrive aux Andes. Alors, dans les Andes, la souche Andes, là, a été décrite il y a 30 ans. Ils avaient dit, attention, il y a peut-être un très faible risque de transmission interhumaine. Oui. Mais il fallait que ce soit des contacts très prolongés, très rapprochés. Même certains ont dit qu'il faut aussi des relations sexuelles, ça marche mieux. Bon. Mais ce n'est pas croiser quelqu'un dans le couloir.
Ça ne suffit pas.
Ces virus américains, et notamment sud-américains, contrairement aux virus asiatiques européens, ils donnent une atteinte qui est plus respiratoire et cardiaque. C'est pour ça que ça peut éventuellement se transmettre. Alors, ceci dit, la transmission est extrêmement difficile. La preuve, c'est que depuis qu'on a connu cette souche andes, il y a plus de 30 ans, il y a eu des petits foyers d'épidémie en Argentine, au Chili, au Pérou. Mais enfin, à chaque fois, c'est resté très limité. Il y a eu très peu de morts. Alors, d'un seul coup, on raconte qu'il y a effectivement un couple de Hollandais passionnés par les oiseaux qui prennent des photos dans une décharge. Bon, moi, je veux bien, mais quand on prend des photos d'oiseaux avec tous les télescopes, on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes dans une décharge. L'histoire ne tenait pas le coup parce qu'ils remontent sur le bateau et ils contaminent plusieurs personnes.
Oui, c'est ça qui est bizarre. Oui.
C'est impossible parce que même si cette transmission interhumaine est difficile, elle est longue, ça me paraît...
Surtout que le délai d'incubation est très long. Ils n'auraient pas dû normalement...
La plupart du temps, c'est beaucoup moins long, mais ils essaient, pour faire peur à tout le monde, de donner la durée la plus longue possible.
Pour maintenir le suspense.
Je pense, oui, parce que comme ça permet de dire... Parce qu'ils... À cette occasion d'épidémie d'antivirus, c'est la première fois qu'ils avaient déjà essayé un peu avec le Covid, mais ce n'était pas aussi flagrant. Ils ont inventé une pandémie de cas contact asymptomatiques.
Ouais.
Et le cas contact asymptomatique a vu le cas contact asymptomatique. Il fait une pandémie. Non, mais c'était un ridicule absolu. Donc, j'avais tout de suite. J'en avais parlé dans les médias, les vrais médias. Je ne parle pas des médias de grand chemin, qui ne m'invitent plus. Et là, on a vu les médecins de plateau ressortir des choses qui n'étaient pas du tout fondées sur le plan scientifique, mais ce n'est pas grave. On voyait bien que tout ça n'avait pas de sens. En plus, si vraiment il y avait des malades, immédiatement le bateau aurait dû ordre d'accoster quelque part pour le plus vite possible sortir tous les gens
Oui.
du bateau. Alors, quitte à ceux qui étaient asymptomatiques, les mettre dans un bel hôtel au bord de la mer pour qu'ils se reposent, et puis ceux qui avaient des symptômes, de les isoler à
Oui.
l'hôpital, voire avoir des soins, mais de les laisser enfermer dans une boîte de conserve qui est un paquebot, en leur interdisant de monter sur le pont pour prendre l'air, en les obligeant à rester confinés. Parce que même, alors il y a deux hypothèses. Pour moi, c'est le virus, faut sniffer des déjections de rongeurs de très près, et en sniffer beaucoup.
Ouh, allez
C'est
ça.
le seul moyen d'attraper ce
Comme dans la
virus.
grange
Voilà, il
comme dans
faut.
la grange de
Mais alors,
Senlis,
souvent, les gens se contaminent dans des espaces clos. Et quelqu'un qui a un vieux tas de bois dans son garage,
Oui, il veut déblayer
il
tout
veut, et puis
ça.
il y a des rongeurs qui ont niché là-dedans, puis en soulevant, il fait de la poussière et il reste plusieurs heures à manipuler son tas de bois, et il en respire un bon coup et il peut tomber malade. Tous les cas que j'ai vus, c'était
C'était
quelquefois des
ça.
chasseurs ou des gens qui étaient en contact avec la nature à quatre pattes dans le.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas comme ça dans le métro. Bon. Donc, on revient à cette histoire. Ils prennent des mesures totalement
Inadapté.
inadaptées parce que ils auraient dû. Et puis, alors, moi, je pense que soit c'est accidentel. Il paraît que le bateau était quand même infesté de rongeurs, comme n'importe quel bateau de
Ouais.
cette taille. Et dans ces cas-là, ce serait la climatisation qui aurait va
Ah, ouais.
vaporisé dans tout le paquebot les déjections. Soit, ça on n'a aucune preuve, donc je ne peux pas accuser, mais enfin, il y en a qui ont pensé, soit le virus a été disséminé volontairement dans la clim du bateau, parce que forcément, c'est passé par la clim du bateau. Il n'y avait pas les temps nécessaires pour faire le premier cas sur son tas d'ordures qui a
Oui,
contaminé les
oui,
gens.
oui,
Bon, ça n'avait aucun sens. Alors après, ce qui était choquant, c'est quand le bateau a fait escale à Sainte-Hélène. Ils ont laissé des gens partir. Moi, j'étais content qu'ils sortent du bateau, mais ils auraient pu les garder un petit peu en
Oui,
quarantaine.
pour voir ce que ça donnait, quoi.
Non, ils les ont autorisés à prendre des avions de
Oui,
ligne
c'est
pour
bizarre,
l'Afrique du
oui.
Sud. Il y en a qui sont allés comme ça après des escales en Afrique du Sud jusqu'à Amsterdam. Alors, bon, heureusement, les cinq Français qui ont été. Alors, il y a des Français qui étaient dans cette escapade dans les avions commerciaux. Mais il y avait cinq Français qui étaient restés. Bon, là, le gouvernement, dans sa grande gentillesse, a envoyé un avion privé sécurisé. Très bien. Après, cette pauvre femme-là qui était très malade, ben, effectivement, de temps en temps, il y a des formes graves. Faut penser à elle très fortement. Mais ce qui est étonnant, c'est que depuis cette histoire, ça fait déjà une quinzaine de
Oui,
jours.
15 jours, 3
On
semaines,
a
oui.
aucun. Avant, on avait un bulletin de santé de
Oui.
heure après heure, qu'elle allait mourir et tout ça, que c'était terrible. Là, on n'a plus aucune
Mais
nouvelle.
là...
J'espère qu'elle est toujours en vie,
Oui, parce
parce
qu'il y avait une Française malade, oui, qui était dans un état critique,
elle est
oui.
à Bichat. Elle était à
Et alors,
Bichat.
elle est
Hein.
toujours
Et puis
vivante,
alors.
finalement.
Ben oui, mais c'est
Elle...
bizarre comme qu'il n'y ait plus de. Alors que tous les jours au journal de 20h, cette
On
femme.
disait, oui, oui,
Bon,
parce qu'il y a eu d'autres
en tout cas, moi, je
actualités
lui
entre
souhaite de
temps.
guérir. Et bon, j'ai confiance dans
Bah,
les
elle va
médecins
finir par...
réanimateurs de Bichat, qui sont des très bons médecins. Je pense qu'elle va s'en tirer. Mais alors qu'on ait isolé aussi tous les cas contacts en chambre à pression négative pendant 40 jours, ça me paraît hallucinant, parce que c'est une maladie qui ne se transmet pas quand on n'a pas de symptômes. Contrairement, je crois, je me demande même si la ministre, il faudrait que je vérifie, n'a pas dit ça. Mais
Ouais.
donc voilà. Donc
Ça paraît disproportionné.
alors surtout, non, on voit que la magouille était trop grosse parce que.
Oui, vous avez l'histoire du bus. Voilà, c'est ce qu'on disait
Ah
tout à l'heure avec
alors,
Marc. Il y a le
oui, alors
bus.
il y avait les
Voilà.
photographes qui prenaient et qui
Oui.
filmaient toute la scène. Ils étaient habillés en cosmonaute, hein, pour
Oui,
un virus qui est à
littéralement.
peine transmissible comme ça
Oui.
d'homme à homme. Et puis
Les policiers et le chauffeur de bus n'avaient
Les
rien.
matelots du bateau, les agents de sécurité, le chauffeur du bus, ils étaient en t-shirt, non masqués. Et puis, ils regardaient en rigolant le mec qui prenait la vidéo des
Oui,
scaphandriers, là. Donc,
ça faisait mise en scène,
c'était
c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
un
Oui.
digne d'un film d'Hollywood, quoi. Et puis, non, surtout, ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que j'ai appris que 3 semaines avant, l'OMS avait organisé une répétition générale aux îles
Ah,
Canaries aussi. Parce que oui,
ah oui,
après Sainte-Hélène, le bateau est arrivé aux
aux
îles
Canaries,
Canaries.
oui.
Hein. Et donc, ils avaient fait la répétition générale de l'histoire d'un bateau avec un virus très dangereux qui pourrait arriver aux îles Canaries. Et Donc, ils avaient fait la répétition avec les scaphandres. Et comme par hasard, 3 semaines après, pof.
Oui, bah ils avaient fait déjà le coup avec le Covid.
Oui, et puis avec la variole du singe.
La variole du singe aussi. Oui.
Bill Gates avait fait une répétition générale avant aussi.
Oui.
À chaque fois, il est fort, Bill Gates. Il prévoit qu'il tout, il fait les répétitions avant, c'est nickel. Là, c'était Tedros, là, le directeur de l'OMS. Puis alors, l'autre truc qui était un peu gros, ça tombait juste la semaine où le. Tedros s'était un peu embêté parce que son traité pandémie...
De traîner la patte.
Traîner la patte, il n'a pas pu passer en force encore cette fois-ci. Dieu soit loué. Mais il fallait absolument sauver l'OMS. Et d'ailleurs, Tedros, moi je l'ai vu quand il est arrivé aux îles Canaries. Parce que quand même qu'un directeur de l'OMS se déplace pour 3 morts, c'est une première mondiale, moi je n'ai jamais vu ça, alors qu'il y a des millions de morts tous les jours dans le monde. Là, il y a 3 morts d'un seul coup, c'est alerte à la planète. Ah, tant mieux, ouais, je ne dis pas tant mieux parce que les pauvres ils sont morts, enfin bon, c'est leur rendre un bel hommage. Mais dans son discours que j'ai entendu, il attaque l'Argentine et les États-Unis.
Les États-Unis qui ont quitté l'OMS.
Les États-Unis avaient déjà quitté l'année dernière, l'Argentine venait de quitter. Et il a dit, j'espère que ça vous servira de leçon pour réintégrer l'OMS.
Oui, oui, j'ai entendu ça. Et vous remarquez que d'ailleurs, dans les journaux de grand chemin, comme vous dites... notamment le Figaro, on disait « Ah, mais les États-Unis ont eu l'imprudence de ne pas prendre cette nouvelle épidémie au sérieux et ils vont voir les conséquences terribles qui ne vont pas manquer d'arriver. » Mais les conséquences terribles, on les attend.
Il n'y a rien du tout.
Pour le
moment, je l'avais dit d'ailleurs, on m'a traité de complotisme. Enfin,
maintenant, on nous traite toujours de complotisme.
Je connais un peu plus les antivirus que certains qui parlent trop. Alors après, comme ça a fait flop... après, ils ont interné un bateau avec une diarrhée virale à Bordeaux. Bon, bah, voilà, c'est pas diarrhée sur un bateau, il n'y a pas de quoi faire un scoop mondial. Et puis ensuite, ils ont dit qu'il y avait encore une autre histoire. Et puis maintenant, c'est Ebola.
Ah ouais, alors il y a Ebola.
C'est Ebola, le retour, ça fait 15 fois qu'ils nous font le coup avec Marbourg. Je le dis clairement, non, M. Tedros, non, M. Bill Gates, on ne pourra jamais faire une pandémie avec le virus Ebola, le virus Marbourg. C'est des virus beaucoup trop dangereux.
Mortels.
Tuent trop et un virus
trop vite.
Qui tue trop et trop vite ne se propage pas. Surtout qu'Ebola ou Marbourg, c'est hyper facile à arrêter. Alors là, effectivement, il peut y avoir des morts et il faut rendre là encore hommage aux victimes. Mais si on isole les victimes, qu'on empêche les gens de les toucher sans protection, ça ne se transmet pas. Il faut un contact direct, physique, toucher le corps du malade ou du mort, ne pas se laver les mains, pas avoir de masque ou de blouse de protection. Et là, on peut choper très facilement et mourir.
Oui.
Mais si on prend des mesures d'hygiène, même de base, c'est totalement impossible. Si en Afrique, malheureusement, quand il y a des petits foyers épidémiques, qui n'ont jamais été non plus énormes. Hein. Bon, ça a été limité, même si les médias ont un peu exagéré à chaque fois. Ce qui a provoqué ça, c'est dans la culture religieuse de certaines populations africaines, où tous les proches, la famille, les gens du village doivent rendre hommage aux morts ou aux mourants. Ils doivent venir l'accompagner. Oui. Même après son décès, ils doivent veiller avec le corps dans une pièce. En le touchant, le caressant.
Et là, évidemment, ça favorise énormément la contamination.
Et alors, pourquoi ils le font ? Parce que s'ils ne le font pas, dans leur tradition, le mort va se venger dans l'au-delà.
D'accord.
Et donc, c'était très difficile pour les équipes un peu médicales internationales qui ont voulu enrayer le phénomène. C'était de convaincre les gens qu'il fallait qu'ils prennent des mesures de précaution, d'isolement, qui étaient tout à fait justifié pour le coup. Mais sinon, moi, ils me font rire. Mais déjà, il y a 2 ans, je crois, un jour, Tedros dit « Attention, il y a eu un cas de Marbourg dans un train en Allemagne. Ils sont tous arrivés avec des scaphandriers. » Puis en fait, c'est un gars qui avait une hépatite je ne sais pas quoi. Dès qu'ils peuvent... Mais c'est entretenir la peur.
Ils ont essayé avec la variole du singe, vous vous souvenez. Je me souviens d'une déclaration de Gabriel Attal, c'était en 2023 ou 2024, qui a dit, de toute façon, c'était vers le 15 août, il a dit, il est clair qu'à la rentrée, des mesures draconiennes seront imposées aux gens de plus de 70 ans. Des mesures de confinement seront imposées aux gens de plus de 70 ans.
La variole du singe, c'est évident que c'était fabriqué, parce que... Oui. La variole du singe naturelle, elle existe depuis toujours. C'est un virus qui n'est pas bien adapté à l'homme. Il y a des cas mortels en Afrique de temps en temps, c'est arrivé, mais c'est des Africains probablement très dénutris qui ont des mauvaises défenses immunitaires. Mais ça donne comme une grosse varicelle.
Oui.
Mais c'est pas la catastrophe chez l'homme, en tout cas.
De toute façon, ça a complètement disparu.
Alors après, quand la variole du singe est arrivée, Bill Gates l'avait prévu un an avant, il avait donné la date.
Là encore, donc à chaque fois. Donc en fait, comme le disait un de nos amis, le complot existe bien, mais il est à ciel ouvert.
Voilà.
Parce que ces gens-là sont un peu comme Adolf Hitler, qui disait avant ce qu'il allait faire. Mmh. Et les gens disent, mais non, il ne le fera pas, vous pensez. Ou comme les communistes d'ailleurs, qui annonçaient avant ce qu'ils allaient faire.
Et là,
ils le font pas, ils font pareil, ils annoncent à l'avance. Exactement. Et les gens ne les prennent pas au
sérieux. Toujours, mais le Covid a été annoncé plein de fois à l'avance.
Ouais.
Et donc cette variole du singe, je vois qu'en 2019, Bill Gates avait investi pour faire un nouveau vaccin qui est commercialisé maintenant.
Alors c'était ça, c'était Gabriel Attal voulait que les plus de 65 ans soient obligatoirement vaccinés contre la variole du singe.
Quand la soi-disant pandémie de variole du singe est sortie, ce qui était très curieux, c'est qu'elle est sortie le même jour dans 15 pays différents du monde, aux quatre coins de la planète. Alors, dès le premier jour, il y avait des cas en Australie, en Norvège, en Suède, en Argentine.
Alors ça veut dire que des gens ont balancé du virus à droite et à gauche.
C'est obligatoirement.
Alors rappelez-vous qu'il y avait dans un feuilleton qui s'appelait Chapeau melon et bottes de cuir, que vous avez peut-être vu autrefois dans les années 70, il y avait un épisode qui s'appelait À vos souhaits, et c'était un savant fou qui balançait du poudre de virus, de coronavirus d'ailleurs, c'était un virus de type rhume, partout dans les lieux publics, et qu'il envoyait par la poste à ses ennemis déjà, dans des enveloppes, et puis il voulait le mettre dans le tube,
C'était le charbon qu'on appelle anthrax.
Oui, maintenant. Ça aussi, il y a eu
et ça. Ils ils avaient accusé Al-Qaïda, mais en fait c'était un chercheur américain qui voulait se venger.
Oui, je me souviens de ça.
Il avait envoyé ça à des sénateurs, à des journalistes, et il y en a qui sont morts d'ailleurs.
Ah oui, parce que c'était efficace.
Donc voilà, revenons à notre variole du singe. Je lis le communiqué. 15 coins de la planète le même jour, non, ça c'est pas possible, hein, faut pas me raconter des sornettes. Ensuite, ils disent la transmission respiratoire, mais ça se transmet aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Alors, si c'est la transmission uniquement anale, il y a un truc que je comprends pas, et en fait, c'est pour ça que ça a fait flop, parce que ça a touché
une partie de la population. Oui.
Je suis désolé pour eux, c'est pas l'homosexuel lambda, c'était vraiment les homosexuels à partenaires multiples non protégés. Parce que moi, je sais que des cas que je connais, ils revenaient de la Gay Pride de Berlin. Ils avaient eu plein de partenaires sans protection. Voilà, donc c'est pour ça que cette épidémie, elle a pas duré. Mais ils ont quand même réussi à vacciner beaucoup de gens en France.
Ah oui?
Que t'es plus dans la communauté homosexuelle. Parce que
le vaccin existe donc.
Ah oui, bien sûr, c'est le nouveau vaccin de Bill Gates que vous pouvez vous faire. Si vous ne l'avez pas fait,
Je ne pense pas être spécialement candidat. Pas trop mon genre.
Vous pouvez courir dès demain pour le réclamer à votre médecin.
Non, j'aurais pas l'idée, franchement. Il faut vivre dangereusement, pas.
Voilà, non, mais c'est pour ça qu'ils me font rire. Alors maintenant, Ebola ressort. Et puis,
est-ce que Bill Gates n'a pas annoncé un vaccin justement contre Ebola?
De toute façon, c'est aussi ce qui m'a surpris. Oui. Moi, je n'avais pas suivi, parce que l'antivirus, personne ne s'intéresse trop à l'antivirus. Ce n'est pas une menace mondiale jusqu'à présent. Et quand il y a eu tout ce pataquès avec le paquebot. On découvre que, je crois que c'est Moderna, si mes souvenirs sont bons, un des laboratoires pharmaceutiques est en train de fabriquer un nouveau pseudo-vaccin ARN messager. Je dis bien pseudo-vaccin.
Oui, parce que c'est une thérapie génique.
Il faut répéter aux
éditeurs. Thérapies géniques.
Un produit ARN messager n'est pas un vaccin. Un produit ARN messager n'est pas un vaccin. Je fais trois rappels.
Oui,
il faut que ça rentre.
Vous prêchez des conversations.
C'est pas un vaccin, c'est des saloperies qui tuent, qui rendent malade, qui augmentent le cancer, qui stérilisent. Actuellement, il y a plein de... Il faut savoir qu'en France, et c'est dans plein de pays qui ont été beaucoup inoculés, la courbe de natalité a croisé la courbe de mortalité.
Ah oui.
Et oui, non, mais c'est la conséquence. Alors, ils font semblant de ne pas comprendre d'où ça vient. Maintenant, moi, quand j'avais dit que ce soi-disant vaccin donnait des turbocancers, je l'ai dit déjà il y a 3-4 ans.
Nous, on en a eu autour de nous.
J'ai eu des articles diffamatoires contre moi. Et maintenant, tous les cancers... Ah ouais, c'est bizarre, on voit des turbo-cancers partout, mais on ne sait pas d'où ça vient. Alors à chaque fois, il y a toujours un écolo bobo...
Et oui, c'est les pesticides.
C'est le réchauffement climatique. Ah.
Non mais alors, vous avez vu aussi le projet de je ne sais plus quel... Oui, c'est Karl Lauterbach, l'homme politique, ancien ministre de la Santé, qui veut que l'OMS déclenche l'urgence climatique, parce que selon lui... le dérèglement climatique est à l'origine des nouveaux virus qui vont décimer l'humanité.
Ah oui, puis il y a Ursula von der Leyen qui a... Je rappelle, n'est pas élue et qui dirige l'Europe de façon illicite parce qu'elle n'a aucune compétence en santé, en affaires militaires, pourtant celle qui dirige tout en Europe. Et Ursula a même déclaré que oui, l'antivirus, c'était du réchauffement climatique parce qu'il y avait pullulation de rongeurs. Alors moi, je vous aimerais bien en parler à la maire de Paris parce que moi, les rongeurs, je n'ai jamais vu autant de rongeurs dans les parcs à Paris. Moi, qui étais, je suis pas né à Paris, je suis venu à Paris, j'avais 3 ans. J'ai vécu quand même toute une partie de ma vie à Paris. Maintenant, quand je retourne dans la capitale, je vois régulièrement des rats dans la rue, dans les parcs, qu'on ne voyait pas avant. Donc, je pense que c'est plus les écologistes qui sont responsables de la prolifération des rongeurs
que le réchauffement climatique.
Pour revenir sur le réchauffement climatique, il y a un petit réchauffement, c'est indéniable. Ouais. Mais quand on discute avec des astrophysiciens,
on a reçu François Gervais ici. Ouais,
ils disent qu'il y a un petit changement de l'axe, de l'axe magnétique de la Terre. Il y a toujours eu des cycles. Il y a eu des périodes de canicule dans l'histoire, même pas si lointaines. Et ça n'a rien à voir avec l'activité humaine. C'est-à-dire qu'ils profitent de ça pour vous imposer les ZFE,
les performance énergétique, interdictions de louer. Bien sûr, non, mais il est évident qu'il y a une utilisation.
Ça, c'est une énorme arnaque.
Mais on le sait, on le dit, qui
rapporte des milliards à certains lobbies.
Oui,
les gens ont la mémoire courte. Il y a encore quelques années, on nous faisait l'arnaque du trou d'ozone.
Je me souviens.
Vous vous souvenez? C'était à cause de vous, de
votre frigo. Il y avait des pluies acides aussi.
Des sprays,
les aérosols.
Les aérosols. À cause de vous, on allait tous griller. Parce que le trou d'ozone s'élargissait.
Les ultraviolets allaient nous griller.
Et puis, d'un seul coup, le trou d'ozone s'est refermé tout seul. Parce qu'en fait, le trou d'ozone, on ne l'avait pas mesuré depuis des siècles. Il était mesuré de façon assez récente. En fait, il y a des cycles qui s'élargissent, rétrécissent. Mais on a quand même réussi à manipuler toute une bonne partie de la planète. Il y a des gens qui se sont fait des milliards dans le changement des appareils de frigo. En plus, je crois qu'il y avait une firme américaine qui possédait tous les brevets des nouveaux liquides pour les frigos.
Oui, parce qu'on a éliminé tous les produits fluorés, je crois, qui étaient extrêmement dangereux. Alors vous remarquez que maintenant, il y a une offensive sur les polluants dits éternels, qui sont des polluants fluorés d'ailleurs, qui sont très stables. Bon, on sait que c'est pas très bon, mais enfin bon, la vie ne s'est jamais autant allongée. Ah, voilà, notre assistant va lire les questions des auditeurs. Il y en a une déjà. Une question d'auditeur en direct.
Bonsoir messieurs, que signifie turbo-cancer?
Un cancer très rapide.
Alors turbo, c'est comme le turbo dans la voiture. C'est un cancer qui évolue à toute allure. D'habitude, un cancer, il y a des cancers d'évolution rapide, on a tous un peu connu, mais la plupart des cancers, on a une première poussée, puis après les métastases, des rémissions avec les traitements, ça peut durer des années. Le turbo cancer, on peut être mort en quelques mois.
C'est ce qui est arrivé à un de nos collègues.
Et surtout, ce qui est frappant avec ces cancers...
En deux jours.
Bah, on a un collègue qui
est mort en deux jours.
Avec ces cancers induits par les soi-disant vaccins Covid, ça peut toucher des jeunes, des enfants. Alors ça donne beaucoup de cancers du pancréas, des cancers de divers et variés. Et surtout quelque chose, moi j'avais fait une réunion qui était à huis clos avec des médecins qui avaient accepté de témoigner avec moi. C'était un débat entre médecins et autres soignants, mais à huis clos, parce qu'ils voulaient pas être embêté, être attaqué par la mi-vilude ou je sais quoi, pour un mouvement sectaire.
Dérive sectaire.
Et c'est des gens qui soignaient des cancers tous les jours depuis des années. Et je me souviens, il y a une femme qui était une médecin qui soignait des cancers depuis 20 ans. Elle pleurait quand elle nous racontait son expérience. « Je n'ai jamais vu ça. Les gens qui ont des cancers tombent comme des mouches. » Elle voit des jeunes qui ont quasiment en même temps 3 cancers différents.
Non.
Ce n'est pas un cancer puis 3 métastases du même cancer. Non, c'est 3 types cellulaires différents, d'organes différents, ce qui avait été décrit de façon totalement exceptionnelle, mais qui n'est plus exceptionnel aujourd'hui.
Et cette réunion avait lieu il y a combien de temps?
C'était déjà il y a 4 ans. Quand c'était là. Parce que tous ces turbo-cancers, on les a observés dès la première campagne de
vaccination.
Pseudo-vaccination.
Oui, je vois ce que vous voulez dire, bien sûr. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous.
D'inoculation, d'un produit expérimental. Il faut quand même rappeler qu'un obligé à l'injection d'un produit expérimental, ça relève de Nuremberg. Hein.
Bien on l'a dit, on l'a répété, et on s'est fait traiter des complotistes, d'extrêmes droitistes, enfin tout ce que vous voulez, on le sait. Pareil, je me souviens d'ailleurs un jour, j'ai été avec mon dermatologue qui m'avait retiré un grain de beauté un peu suspect, qui était d'ailleurs pas méchant en fait. Bon, et j'ai eu le malheur de lui parler de Raoult, que j'admire beaucoup personnellement. Elle est tombée en hystérie, littéralement. En hystérie. Elle me dit, un charlatan d'extrême droite. Je lui dis, d'abord, c'est pas un charlatan. Bon, il est quand même, j'avais envie de lui dire, il est encore plus compétent que vous. Vous êtes très compétent d'ailleurs, mais il est peut-être encore plus. Et d'extrême droite, j'ai pas du tout l'impression qu'il soit d'extrême droite. De toute façon, tous les gens qui sont un peu contestataires, maintenant, ils sont taxés d'être d'extrême droite. Alors complotiste d'extrême droite et charlatan. Non, mais alors, c'est des insultes. Et puis, la pauvre femme, finalement, elle est morte juste après. Mmh. Alors, je ne sais pas si elle avait été vaccinée, elle aussi. Tiens, parce qu'elle est morte relativement jeune. Elle était plus jeune que moi. Elle a dû mourir à 65 ans. Bon, elle était un bon médecin dermatologue, mais elle était hystérique. Et je n'ai jamais compris, d'ailleurs, cette espèce de... Normalement, l'attitude scientifique, c'est de douter. C'est de se poser des questions, c'est d'écouter l'interlocuteur, d'argumenter, mais c'est de pas, devenir un peu hystérique.
Il y a la meilleure preuve qu'il y a Anguille sous roche ou baleine sous caillou.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est que dès le début, comment il s'appelle, Laurent Toubiana, qui est un super épidémiologiste, Chaillot, Pierre Chaillot, qui est
un excellent statisticien
qui travaillait à l'INSEE.
On a reçu ici également.
Voilà, ils ont écrit des bouquins, ils ont fait des trucs remarquables. Ils avaient demandé au ministère de la Santé, on voudrait avoir les bases de données, parce que le ministère de la Santé possède les bases de données de chaque Français qui a été inoculé par le pseudo-vaccin et le taux de mortalité.
Bah oui, pour voir.
Ou de maladies graves, etc. Même Xavier Azalbert, au nom de bon sens, avait fait la demande aussi. À chaque fois, alors, ça a été refusé. Alors, déjà, il y a plusieurs années, hein, la première année après ces campagnes de pseudo-vaccination. Donc, au début, le ministère répond « Oh, on est désolé, on n'a pas les chiffres. » Et mon œil, alors quand ils ont besoin d'avoir les chiffres surtout, on est tous surveillés.
Oui.
Mais bon, alors c'était un peu grossier, donc on a insisté. Après, ils ont quand même avoué « Oui, on pourrait avoir les données, mais en fait, c'est trop compliqué à analyser. Ça demanderait trop de temps, il n'y a pas assez de bandes au ministère. »
Oui, mais avec l'IA, ça va vite maintenant.
Même avec bon sens, on avait dit, si vous voulez, on peut financer un ou deux experts internationaux excellents dans l'analyse des bases de données. On peut le faire pour vous. Là, ils n'ont plus répondu. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils nous baratinent en disant, non, on n'a pas les bases de données, on ne peut pas les analyser. Et sort, à la fin de l'année 2025, un grand article dans le JAMA, un journal American, c'est le journal de l'Association américaine des médecins, quoi, qui est un grand journal international, très coté au plan mondial. Un article donc, fait par Epiphar. Epiphar, c'est une agence qui a été créée par l'Agence du médicament et par la Caisse d'assurance maladie, comme par hasard, d'ailleurs, juste un an avant le Covid. Et là, les chercheurs, aux ordres d'Epiphar, sortent un article sur les bases de données qui n'existent pas, soi-disant, qu'on n'a pas accès, pour dire, oh, c'est génial, en France, le vaccin, il a sauvé des millions de vies, il n'y a pas d'effets secondaires, tout ça. Alors, nous, on a tous lu l'article, il y a des grosses erreurs méthodologiques, des chiffres qui ne sont pas cohérents. Donc, on a écrit au journal JAMA, qui a accepté une lettre de réponse, mais ils n'ont pas voulu aller plus loin, parce que nous, on a même demandé la rétractation, en disant, c'est évident que les chiffres sont bidons, que... On a même écrit aux autorités françaises, ils s'en foutent, ils ne répondent pas.
Non, mais donc, ça, c'est fréquent.
C'est-à-dire que la fraude médicale dans les journaux, j'en ai ras-le-bol. Il y a cette fraude-là sur le soi-disant
vaccin. C'est comme la fraude scientifique.
Et juste avant, il y avait, quelques mois avant, l'article soi-disant que l'hydroxychloroquine aurait tué 17 000 personnes.
Oui, je me souviens, c'était Raoult qui racontait tout ça.
Et en fait... donc c'est le fameux professeur Molimard qui défendait ça, c'est l'article de Pradel et collaborateurs. On a pu démontrer, encore avec le travail de l'association Bon Sens, et je salue Bon Sens qui nous... moi je suis vice-président de l'association, je fais un peu de pub, mais on fait un énorme travail scientifique avec Xavier Zelbert, son président, qui est un très bon mathématicien. Et là on a pu obtenir la rétractation... de l'article des 17 000 soi-disant morts de l'hydroxychloroquine. Et alors, tous les médias en France avaient parlé de cet article. Regardez, là, ça prouve que l'hydroxychloroquine, c'était très dangereux, alors que c'était en vente libre comme des pastilles Valda.
Oui, c'était pour traiter le paludisme, oui.
Alors, c'était plus la chloroquine pour le palu, mais ça marchait aussi sur le palu. Mais c'était utilisé pour des maladies auto-immunes. C'était en vente libre comme les pastilles Valda.
Il y a eu, comme le disait Braoult, il y a des milliards de gens qui l'ont utilisé dans leur existence et en sont très bien portés.
Bien sûr. Donc, cet article de. Là, cette fois-ci, c'était dans le New England Journal of Medicine, donc le plus grand genre, le plus coté. Là, celui-là, on a obtenu la rétractation. Mais. Tous les médias ont parlé de l'article frauduleux, mais quand il a été rétracté, personne n'en a parlé. C'est bizarre. Hein. Mais franchement, quand on regarde...
Il y avait la fausse étude du Lancet qui avait dénoncé Raoult, aussi, vous vous souvenez. Et puis le remdesivir, le fameux remdesivir qui tuait plus de gens qu'il n'en sauvait. Il tuait, d'ailleurs, c'était un truc épouvantable.
Le remdesivir, moi j'étais écœuré parce qu'on avait fini, c'était long, par la CADA, avoir accès aux... recommandation du Haut Conseil de la Santé publique. Moi, je connais bien le Haut Conseil de la Santé publique, j'ai participé à sa création, j'étais le président depuis le début des commissions maladies transmissibles. Tous les avis, normalement, étaient publics. Et là, l'avis était caviardé, tout noirci, celui sur le remdesivir. Et on avait fini par obtenir, mais longtemps après, la version en clair. Et là, on a découvert que le ministre qui, à l'époque, un certain Olivier Véran, je crois un nom comme ça, si mes souvenirs sont bons. Il savait très bien que non seulement ça donnait les insuffisances rénales aiguës que n'importe quel médecin savait depuis un certain temps, mais en plus ça donnait les atteintes hépatiques graves, et malgré ça il a continué à le recommander. Et moi ce que j'ai trouvé ignoble, c'est que tous les médecins de plateau, mes collègues, les politiciens, les ministres disaient « Ah non, on ne peut pas donner l'hydroxychloroquine, il n'y a pas eu d'études randomisées. »
Oui, alors que le remdesivir, on a eu toutes les études.
Il y avait zéro étude.
C'est hallucinant.
Et puis qu'en plus, c'était Raoult qui avait révélé ça, parce qu'au début, Raoult, il voulait se le mettre un peu dans la poche. Il avait invité à la première réunion du conseil scientifique à l'Élysée au tout début du Covid.
Oui, je me souviens.
Et Raoult avait raconté qu'en arrivant là, il y avait Delfrécy qui présidait le comité.
Et Macron qui était invité.
Et Macron était là. Ouais, ouais. Et Macron avait invité le PDG de Gilead, le grand laboratoire pharmaceutique américain qui produit le remdesivir. Et le PDG de Gilead avait mis des boîtes de remdesivir sur la table en disant, ben voilà le traitement
miracle. Oui, alors je rappelle que c'est un antiviral, mais qui est totalement inefficace et très toxique.
Voilà, et à 2000 euros l'ampoule, c'est l'avantage. Et puis c'est uniquement injectable. Et ils avaient essayé sur Ebola en Afrique, ça n'a pas du tout marché.
Oui, je sais qu'ils l'ont essayé de le recycler après pour le
Covid. Parce qu'en fait, ce n'était pas un antiviral. Hein. Je connais bien le remdesivir. C'était fabriqué par l'industrie nucléaire. C'est un anti-mutagène. Ils avaient développé ça pour voir si par hasard ça pouvait aider des patients qui auraient été irradiés accidentellement.
D'accord. Donc c'est ce qu'il faut prendre quand on va à Tchernobyl. Quoi.
Voilà. Non, mais, je ne sais pas pourquoi un jour il y en a un qui a eu l'idée complètement délirante de dire tiens, c'est un antiviral.
Oui, c'est ce qu'on a entendu dans la presse partout. Mmh. Ouais. Alors j'ai une question quand même à vous poser parce qu'on constate autour de nous qu'il y a des gens vaccinés qui n'ont eu aucun effet secondaire ou qui se sont toujours très bien portés. C'est le cas de mon beau-père, par exemple. Mmh. Il y en a même, j'ai même un collègue qui me dit « Ah bah, avant, j'avais des problèmes. Depuis que j'ai été vacciné, ça m'a guéri tout ce qui n'allait pas. » Bon. Et puis, il y a des gens qui ont eu des effets secondaires. Alors, j'en rencontre beaucoup. Soit de légers, moyens à très, très graves, voire jusqu'au coma. Et puis, il y a des gens qui sont morts. Alors, est-ce que c'est des résistances personnelles différentes ou est-ce qu'il y avait des lots, comme on l'a raconté, qui étaient des lots de placebo, des lots de compositions diverses et des lots excessivement toxiques.
Il y a probablement les deux. Alors, comme pour la maladie, même pour la résistance aux effets secondaires de vaccins ou de médicaments, on n'est pas égal, ça c'est sûr. Hein, bon. Après, le fait qu'il y ait des lots différents, il y a un site américain qui s'appelle How Bad Is My Batch. Alors, ça veut dire quelle est la nocivité de mon lot.
Ouais, c'est ça.
C'est en anglais, mais c'est et là, en fonction de votre numéro de lot,
vous pouvez voir
quelle est la fréquence des effets secondaires, la fréquence moyenne des effets secondaires avec ce lot. Et on voit qu'il y a des différences énormes entre les lots, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, ceci dit, bon, il y avait plusieurs marques de vaccins qui n'étaient pas fabriquées pareilles. En plus, faut pas oublier que quand ils ont mis au point le vaccin, quand ils ont fait l'étude publiée, qui était frauduleuse, d'ailleurs c'était démasqué dans le British Medical Journal, mais les médias n'en ont pas parlé. Enfin, ils ont dit, ça y est, on a étudié le vaccin, il est sûr et efficace. En fait, ils n'avaient pas fait les études comme il fallait. Mmh. Donc c'est à chaque fois.
Parce que pour le moment, force est de constater la population n'a pas été décimée par le vaccin. Il y a beaucoup de gens vaccinés qui s'en sont très bien sortis.
Oui.
Mais il y a des cas, on a des cas autour de nous. Alors bien entendu,
ce que je voulais dire, c'est que quand justement ils ont publié ça, ils ont fait les études pour la publication sur une souche de laboratoire qui était une souche préliminaire, qu'ils ont complètement modifié après, et la souche qui a été inoculée aux gens n'est pas la souche qui a été évaluée. Mais ça, c'est dans le domaine public. Hein. Et alors, je voudrais saluer, là, puisqu'on est là, Helmut Sterz. Alors, Sterz, c'est S-T-E-R-Z, Helmut, son prénom, Helmut Sterz, qui est un gars remarquable. Il est allemand. Il parle très bien français parce qu'il épouse une Française et maintenant, il a pris sa retraite. Il vit en France. Il adore la France. Mais il a... Il était toxicologue, il était vétérinaire à la base et toxicologue, il connaissait bien la virologie. Il a fait plusieurs laboratoires pharmaceutiques importants. Mais il a terminé sa carrière, devinez où ? Chez Pfizer, en France, dans l'usine d'Amboise. Alors quand le Covid est arrivé, il avait déjà pris sa retraite, mais il avait accès à tous les documents qui en fait étaient publics si on savait chercher. Peut-être qu'il avait aussi gardé des relations à l'intérieur de Pfizer. Mais enfin, cet homme a tout révélé. Et son livre, maintenant, est traduit en français. J'ai écrit la préface. Il est sorti il y a 15 jours.
Quel est le titre du livre ?
Ça s'appelle « Mafia, Vaccin, la mafia ».
Ah bah et c'est publié chez quel éditeur ?
Chez Résurgence.
Résurgence.
C'est à Bruxelles, mon ami Marco Pieter.
Oui, très bien. Oui, très bien, voilà. Marco Pieter. Je vois
ça,
très bien.
Lisez ce livre. Donc, ce gars-là, il a été même le chef de ce qu'on appelle le développement préclinique, c'est-à-dire les études in vitro, les études chez l'animal, avant de passer à l'homme pour les médicaments, les vaccins. Il a été le grand chef de ça sur toute l'Europe.
Alors voilà des questions. Ouais. Et puis après, on va devoir appeler Nicolas Stocker, parce qu'il y a pas mal de questions.
Alors,
je me réjouis qu'il y ait des questions.
Il était le grand chef sur toute l'Europe pour ça. Et dans ce livre, il montre que rien n'a été fait comme il fallait. On n'a pas étudié correctement chez l'animal, on a caché des données. Mais c'est, quand on lit ce livre, on se dit mais c'est vraiment criminel. Et donc voilà, faut absolument lire ce livre de Helmut Sterz.
Oui, mais je crois que beaucoup de gens en sont conscients, mais c'est trop horrible pour eux de l'admettre officiellement.
Oh oui, bien sûr.
Et ils préfèrent garder la tête dans le sable.
Alors, pour les lots, une dernière chose, c'est qu'il y a... c'est une infirmière, cadre infirmier supérieur en Slovénie, au tout début de la première campagne d'inoculation, qui avait craqué un jour, et à la télé slovène, elle avait tout déballé en disant « Bon, moi, j'en ai marre, parce qu'on sait, selon le numéro de lot, si c'est du placebo, du faiblement dosé, du fortement dosé, on a ordre de faire le placebo... » pour les politiciens, les VIPs, les journalistes.
Oui, mais alors... Ah oui, d'accord.
Elle l'a dit publiquement, après elle a disparu de la circulation, j'espère qu'elle
a encore... Oui, je me souviens d'avoir entendu ça, mais alors d'un autre côté, beaucoup de gens se sont fait vacciner de manière plus ou moins anonyme dans les pharmacies, chez les pompiers, des trucs comme ça. Là, on ne pouvait pas savoir quel type de lot on utilisait.
Le problème, c'est que les médecins, souvent, ce qui est totalement illégal, n'ont pas gardé les numéros de lot. Parce que moi, je connais beaucoup de gens inoculés qui sont allés voir leur médecin, leur pharmacien, en disant, j'aimerais avoir mon numéro de lot.
Eh oui, pour savoir.
Normalement, la traçabilité, elle est obligatoire, mais...
Ils n'ont pas gardé. Alors, il y a les questions.
Alors, quelques remarques, quelques questions. J'ai 77 ans, je n'ai aucun vaccin, je ne connais pas de mort du Covid, mais je connais 3 morts jeunes frappés de turbo-cancer.
Ah bah, voyez. Alors, il y a juste un bobino qui doit passer. Un bobino, c'est une petite publicité, une petite bobine. C'est rien à voir avec le cabaret.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Bon, ça marche, voilà. Je sais pas, chers auditeurs, si vous avez entendu ou pas un bobino. Nous, on n'a rien entendu. Alors, d'autres questions. Et puis après, on va appeler Nicolas Stocker. Mais encore, finissons les questions.
Oui, deuxième question ou remarque. Les données Covid sont-elles trop compliquées à analyser parce que les lots utilisés étaient différents et que ce serait donner la preuve que ce pourrait être une expérimentation à grande échelle. Oui. Ah ben, quand l'injection a été lancée, un seul vaccin ARN messager était autorisé au monde depuis un an, chez le cochon, contre la grippe porcine, et dans un seul pays, le Canada.
Voilà. Non, mais de toute façon, on sait que tout ça, ça a été manipulé, les données. Si vraiment ils étaient honnêtes, ils les donneraient. Il y a des pays comme l'Angleterre qui avaient donné... C'est pour ça que j'avais été d'ailleurs chassé des grandes chaînes de télé françaises. C'est que j'avais donné les chiffres de santé publique Angleterre, oui. Qui déjà, il y a longtemps, montraient que les inoculés par le pseudo-vaccin Covid, s'ils faisaient une forme sévère, ils mouraient quatre fois plus que les non-vaccinés. Et ça n'avait pas plu en haut lieu.
Évidemment.
J'imagine. Mais je l'ai quand même dit.
Alors, continuons.
Question suivante. Bonsoir. Les hantavirus sont peu contagieux, mais le CSIRO australien en a bricolé dans les années 90 pour augmenter leur contagiosité afin de lutter contre les lapins. Ceci a généré des inquiétudes en Asie du Sud-Est après une fuite de ces virus. Le même CSIRO, une sorte de combiné entre INRA et INSERM, a bricolé également le virus de la variole de la souris pour en faire un vecteur de maladie auto-immune, entraînant une stérilité des souris femelles. Estimé trop létal, un gène favorisant la production d'interleukine y avait été introduit, mais ceci a conduit à 100% de mortalité des souris. Cette affaire datant des années 90-2000 est un exemple de risque de bioterrorisme cité par les sites officiels américains comme exemple de risque possible. Question subsidiaire du complotiste de service, quel est l'État qui est le plus gros acheteur de terres en Patagonie?
C'est peut-être Bill Gates d'ailleurs.
Je ne sais pas, c'est possible.
Il cherche à acheter des terres
agricoles. Toutes ces histoires, les détails de ce monsieur, c'est peut-être vrai, parce que c'est vrai que les Australiens font n'importe quoi pour éliminer les lapins, les kangourous, les renards. À chaque fois, c'est des catastrophes écologiques.
Les immigrés aussi.
Donc c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir que ces modifications des germes, je pense qu'il n'y a pas que les États-Unis qui l'ont fait. Ça a même commencé à grande échelle au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec les Japonais, les nazis, puis après les Américains. Les Russes ont dû s'y mettre aussi une époque.
Oh oui, certainement, sauf qu'on ne le savait pas. Oui.
Et donc, c'est ce qu'on appelle les gains de fonction. C'est-à-dire qu'on prend un virus, une bactérie naturelle. C'est comme la maladie de Lyme. Maintenant, c'est prouvé que c'était modifié par les militaires. Ouais. On augmente la virulence. Et là, ce qui est très intéressant... actuellement, c'est qu'aux États-Unis, le bras droit d'Anthony Fauci, qui était le roi du qui finançait, donnait des milliards pour les gains de fonction. Alors lui, pour l'instant, sa tête semble encore un petit peu protégée, mais ils sont en train d'inculper son bras droit. Et maintenant, c'est interdit aux États-Unis de financer les gains de fonction. Trump a coupé plein de...
De toute façon, là, au coronavirus, on l'a dit, il y avait des gains de fonction. Oui. Alors maintenant, il y a trois choses qu'on admet, alors que c'était violemment contesté. La mortalité n'était pas de 10%, mais de 1%, à peu près, quand elle n'était pas d'un demi-pourcent.
Ouais, même pas. C'est,
parfois, donc comme la grippe. Oui. Et ce que j'avais dit en 2020, et tout le monde était ivre de rage contre moi, littéralement, on disait que j'étais irresponsable de dire ça, c'était la vérité. Le virus a très probablement été trafiqué avant avec des gains de fonction. Et ça, d'ailleurs, je me souviens que le professeur Montagnier l'avait bien dit. Oui. Il avait dit, les gains de fonction, le virus tendra à s'en débarrasser progressivement. Donc il redeviendra beaucoup moins dangereux à la longue. Et troisième chose, il est évident qu'il est sorti d'un truc du côté de Wuhan, accidentellement ou volontairement, on ne sait pas trop. Mais c'est un peu un Tchernobyl chinois. Alors, il y a encore une question. Là.
Alors, peut-être un remerciement. Oui. Merci, Monsieur Tournafond, pour l'invitation du professeur Perron. Grâce à lui, j'ai pu échapper à la vaccination. Ce fut ma boussole pendant cette période cauchemardesque avec le psychologue docteur Crèvecoeur.
Oui, très connu, Crèvecoeur.
Professeur, merci pour votre courageuse résistance et votre fidélité au sommet d'Hippocrate. Au serment d'Hippocrate.
Merci beaucoup à vous. Ça me touche et ça, des témoignages comme ça,
vous avez sauvé la vie des gens en leur évitant une injection qui aurait pu être létale et qui était de façon expérimentale. En plus, ça rime, vous voyez. Alors, on pourrait peut-être maintenant appeler Nicolas Stocker. Je ne sais pas si notre... il faut attendre 3 minutes, je ne sais pas. On parle par signe, Alors, donc, nous avons maintenant ces nouveaux variants, ces nouveaux virus, plutôt. Alors, est-ce que vous pensez que ça va se tasser parce qu'il y avait pas que trois. Il y a trois morts hein, pour le hantavirus. Mais il y en avait d'autres qui étaient malades. Donc il y en a une, on ne sait plus trop ce qu'elle est devenue.
Hein. C'était une vingtaine de cas.
Mais... Et alors, qu'est-ce que les autres, ils se portent comment?
Il y a pas de nouvelles. Ils ont guéri parce qu'on n'a pas de nouvelles.
On n'a pas de nouvelles. Alors vous remarquez qu'on ne parle plus de ça du tout en ce moment. Le Figaro essayait de relancer le débat avec Ebola. Et puis, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le Figaro a dit « Ah, si ça n'a pas été plus grave que ça avec le hantavirus, c'est grâce à toute l'expérience que nous avons acquise pendant le coronavirus. Voilà. Parce que grâce aux mesures draconiennes et à notre extraordinaire réactivité, nous avons pu limiter à quelques cas ce qui aurait été une catastrophe planétaire. »
Mais il faut que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Ils ne connaissent rien l'antivirus. Bah, et il aurait fallu que M. Tedros reste tranquillement chez lui à Genève plutôt que d'occuper toutes les chaînes de télé à faire des spectacles.
Oui, mais parce que justement, c'est justement politique. Parce qu'il faut créer une hantise, c'est le cas de le dire, le hantavirus, il va vous hanter. Parce qu'à ce moment-là, ça va permettre d'avancer... sur des terrains très intéressants, le fameux traité sur les pandémies, le contrôle social, l'urgence climatique, l'urgence sanitaire.
Pourquoi ils veulent faire peur? Parce que Ursula, il ne faut pas oublier, le répète régulièrement, parce qu'elle annonce toujours ce qu'elle va faire de terrible après. C'est qu'ils veulent l'identité numérique.
Mais bien sûr, l'abandon de l'argent liquide.
L'euro numérique.
L'euro numérique.
Et le passeport vaccinal, sanitaire. Donc, si on les laisse faire, et j'espère que ça ne se fera pas, parce que là, c'est terrible, on sera tous fliqués avec l'intelligence artificielle. On ne pourra plus avoir accès à son compte bancaire. On ne pourra plus rien faire si on ne plaît pas en haut lieu.
Exactement.
Et, les inoculations de tout un tas de saloperies à rennes messagers, on va nous les imposer. Ils commencent déjà à les imposer aux animaux.
Oui, on l'a vu avec, effectivement,
les volailles. Les vaches, c'est encore du vaccin traditionnel, mais ils sont en train de développer un nouveau vaccin.
On voudrait vous poser une question à propos des volailles, justement. Alors, beaucoup de gens se sont inquiétés des vaccins ARN messager qui ont été injectés aux volailles, et on nous a demandé si la consommation de la viande de ces volailles pouvait présenter un risque pour l'homme.
Parce que c'est vrai que c'est surtout Jean-Marc Sabatier qui a parlé de ça.
Ouais.
Je crois qu'il disait que certains ARN messagers peuvent résister 10 minutes à 100 degrés, quelque chose comme
ça.
Et
les sucs gastriques les détruisent aussi.
Alors, si vous cuisez un poulet pendant une heure, il n'y a vraiment aucun risque. Il y aurait peut-être un risque plus théorique parce que c'est quand même... Il y a quand même des barrières d'espèces entre les ARN, ce serait détruit par le suc gastrique.
C'est ça.
Si vous mangez des œufs sur le plat, des œufs à la coque ou un magret de canard...
Il faut éviter de gober des œufs crus.
Un magret de canard rosé, on sait qu'il peut rester un peu d'ARN messager dedans. Et que pour l'instant, il n'y a pas de démonstration de cette transmission. Mais surtout, on sait que tous les produits ARN messager ne sont pas des vaccins. Donc si on inocule ça à des volailles, ce n'est pas pour protéger les volailles, c'est pour enrichir des laboratoires.
Bah oui.
Et donc,
Je crois qu'il y a Nicolas Stocker, il me semble. Voilà. Allô? Nicolas, vous êtes là? Alors, on va y arriver. On va y arriver. Mais, question subsidiaire. Mon chat, qui est un grand chasseur, qui adore manger des souris, des campagnols, s'il mange une souris qui a l'antivirus, il risque quelque chose?
Non,
lui
parce que l'antivirus ne touche que les rongeurs, il ne touche pas les chats.
La preuve, c'est qu'il y a quand même quelques contaminations des hommes. Vous l'avez montré, l'histoire de la grange, là, de la poussière.
Ah oui, mais il n'y a pas de description à ma connaissance.
Les chats, est-ce que le chat peut contracter l'antivirus?
Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Alors, peut-être
et le communiquer ensuite? Je sais pas. Non, parce qu'il mange une souris en ce moment, surtout parce qu'avec la belle saison, il en mange une tous les soirs, moyenne.
Des chats, il y en a partout en France et la plupart sont en contact directement des humains dans leur maison.
Oui.
Si c'était un agent de transmission, on le saurait.
On le saurait. Alors attendez, voilà Nicolas Stocker de nouveau. Allô? Non? Bon, alors Alger avec lui. Bon, alors on continue. Donc les chats, pour le moment, pas trop de danger avec le chat. Mon chat n'a l'air de très bien se porter. Il a encore mangé une souris cette nuit. Mais... Bon, parce qu'il nous laisse les entrailles de la souris dans la porte de la cuisine. Pour nous montrer que ça, il n'en veut pas. et quelquefois, il en mange plusieurs par nuit. Et c'est des campagnols. Hein. Alors parfois, il attrape un rat. Mais Ah, alors voilà. Alors voilà de nouvelles questions en attendant que Nicolas Stocker arrive.
Quelques questions. Professeur, vous avez été la lumière dans cette période si sombre. Vous avez toute notre reconnaissance. Grâce à vous, nous avons échappé à cette hystérie. Vous avez servi la France.
Merci beaucoup, vous avez tout, et vous avez sauvé des vies. Et c'est, vous avez agi en fonction.
Voudriez-vous rentrer au Panthéon?
Non, mais
c'est ma question. Un autre cas, j'ai reçu une lettre de la Sécurité sociale m'invitant à me faire vacciner contre le Covid-19 gratuitement entre le 14 avril et le 30 juin de façon à être protégé pendant la période estivale. Rien ne les arrête. Merci, professeur.
En plus, oser faire ça, c'est criminel parce que le Covid, le virus circule encore, mais il est devenu totalement bénin.
Oui,
il a toujours perdu de sa virulence. Tous les coronavirus qui sont en contact avec l'homme perdent leur virulence. C'est connu ça depuis la nuit des temps. Donc, ils donnent des petits rhumes.
Oui, c'est ce que disait Montagnier, d'ailleurs.
Des petits rhumes, des petites bronchites. Mais obliger les gens à se faire inoculer, alors que maintenant, c'est prouvé que tous les dossiers Pfizer sont sortis, que c'est des produits dangereux, qui sont inefficaces. Comment un ministère, une caisse d'assurance maladie, un jour ils seront tous devant les tribunaux. C'est pas possible. Moi, quand j'entends ça,
je suis d'accord. Je comprends. On a l'impression de vivre dans un monde de fous. C'est de plus en plus l'impression que nous avons, et dans bien des domaines. D'ailleurs, la même chose pour les interdictions de louer les logements en classe F et G, les ZFE. Parce que avant, il y avait quand même, depuis Aristote jusqu'à nos jours, il y avait une idée, c'est qu'il fallait pas que les avantages attendus d'une législation soit totalement anéanti par des inconvénients, des effets secondaires, on va dire, catastrophiques sur le plan économique et social. C'est le cas des ZFE. On sait que, comme l'a dit très bien François Gervais, ça ne modifiera pas d'un millionième de degré la température de la planète. C'est sûr et certain, et ça ne changera rien aux microparticules, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc on sait que ça n'aura aucune efficacité.
Mais ça rapportera des milliards à certains lobbies.
Voilà. Mais alors, par contre, ça aura des conséquences dramatiques pour la vie des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Eh bien non, ça n'est plus pris en compte.
Moi, j'ai rencontré récemment, dans mes déplacements en France, un garagiste qui vendait des voitures électriques. Et juste parce que il était invité à dîner avec moi, avec des amis dans cette ville, il m'a dit, je viens de boire du champagne, j'ai vendu ma dernière voiture électrique, il avait fait un stock, donc il ne pouvait pas se débarrasser.
Et là, il était content.
Il m'a dit, les voitures électriques, elles sont invendables, on ne peut pas les...
Et d'occasion, il n'y a pas de reprise, hein, parce que la batterie est fichue, et ça coûte plus cher que d'en racheter
une. Et toute l'industrie de l'auto européenne, y compris les Allemands, sont en train de couler.
À cause de ça, c'était
une énorme arnaque, ce truc.
Mais on le sait, ça fait partie, on vit dans un monde de fous. Alors, il y a encore une observation.
Là, il y a une question un peu plus particulière. Bonjour. Les vaccins injectés à nos enfants dans le carnet vaccinal ont-ils également été détraqués de façon aussi nocive que ceux à ARM ou Covid? Peut-on faire confiance?
Les 11 vaccins. Les
pour
11
l'instant,
vaccins.
Non. Moi, je suis contre maintenant les obligations vaccinales. Il y a un certain temps, j'avais une grande confiance dans l'industrie pharmaceutique. Je l'ai totalement perdue, ça je vous rassure. Alors, pour l'instant, ce n'est pas des vaccins ARN messager, mais ils ont dans l'esprit, ils sont en train d'essayer d'en développer. Quand le jour où ce sera ARN messager, il faudra refuser
systématiquement.
Ce serait vraiment un crime contre l'humanité, bis repetita. Pour l'instant... Il y a des choses dans les vaccins qui ne me plaisent pas. D'ailleurs, c'est Robert Kennedy Jr. qui a dénoncé ça le premier. Moi, j'avais écrit la préface de la version française de son livre que je vous conseille de lire. C'est Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma, toujours chez Marco Pieter à Bruxelles.
Oui, toujours. Oui.
Et c'est pour ça que Kennedy, en ce moment, se bat pour que les vaccins soient évalués avec des méthodes scientifiques adaptées, ce qui n'a pas du tout été le cas. On ne les évalue pas contre placebo, on les évalue contre les excipients. On ne dit même pas la liste des excipients qu'il y a dans les produits. Donc je rassure quand même cette personne, ça n'a rien à voir avec les soi-disant vaccins ARN messager. Mais moi, je suis comme vous, je commence à me poser des questions et il faudrait que tout le système soit remis à plat.
Oui, c'est bien, c'est ce qu'on dit tout le temps.
Et pour prolonger la question, les fameux vaccins pour le tourisme, par exemple, contre la rage, l'encéphalite atique, quand on part dans des zones un peu périlleuses, ceux-là, ils sont douteux aujourd'hui
Non, c'est les mêmes. Le vaccin de la rage est très efficace. Et en plus, autrefois, le vieux vaccin préparé sur du cerveau de singe, quelquefois donné des petits effets secondaires neurologiques, maintenant, c'est des vaccins purifiés.
Ah oui, ça va. Donc, on peut se faire vacciner contre la rage facilement.
Mais ils ne risquent pas de devenir ARN messager, ceux-là?
Ça, c'est tout le problème.
C'est le danger.
Bien sûr qu'ils rêvent que de ça. C'est de remplacer progressivement tous ces vaccins par des faux vaccins.
Alors, d'autres questions. Merci infiniment pour votre émission. Merci, professeur. Grâce à vous, je ne me suis pas fait vacciner. J'aimerais savoir ce que pense le professeur Perron sur les vaccins obligatoires pour les enfants.
Ben voilà, donc, c'était la même question. Voilà, c'est toujours la même question. Oui.
Pourquoi le médecin oblige à cette vaccination, même si on garde le bébé à la maison? Merci.
Mais là, c'est ce que j'ai répondu. Je serais totalement contre le maintien des obligations vaccinales. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. On peut très bien surveiller les maladies. S'il y a un petit rebond, on peut sensibiliser les gens. Les gens ne sont pas idiots. Hein. Moi, je me souviens, quand on était jeunes médecins, on attendait tous avec impatience le vaccin de l'hépatite B, parce que moi, j'avais plein de collègues qui expliquaient, les chirurgiens, les infirmières.
L'hépatite sérique,
Ça pouvait donner après des cirrhoses, des cancers du foie. Et quand l'obligation vaccinale des soignants est arrivée, l'hépatite B avait déjà quasiment disparu à l'assistance publique hôpitaux de Paris parce que les soignants s'étaient d'eux-mêmes fait vacciner avant que ce soit obligatoire. Donc l'obligation, c'est finalement quand vraiment on explique bien aux gens qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie, il n'y a pas besoin d'obligation. Je crois qu'il faut beaucoup plus une démocratie sanitaire. On explique, après si les gens...
Ils gardent leur liberté, bien sûr.
Ils gardent leur liberté.
C'est évident.
Alors... Arrêtons de parler de gain de fonction alors que ces manipulations de laboratoire augmentent la dangerosité des virus. On ne doit pas employer des mots positifs pour réalités négatives.
Oui, mais ça, on est bien d'accord, mais c'est dans le jargon des biologistes qu'on parle de gain de fonction.
Non, parce que la fonction d'un virus, c'est d'être virulent, donc on lui fait gagner de la virulence.
Oui, c'est tout. C'est comme un gain de mortalité ou un gain de létalité.
Enfin, c'est le terme consacré.
Même si on peut le critiquer, ça, c'est le terme technique qu'on utilise. Voilà. Parce que le problème, c'est que si vous n'utilisez plus les termes techniques qui s'imposent, on ne vous comprend plus. On ne peut pas changer le vocabulaire. Alors, je vois maintenant Lara Stam qui apparaît sur les écrans, mais je ne vois toujours pas Nicolas Stocker, mais on va... Non. Ah, le voilà qui est revenu. Alors, est-ce que ça marche cette fois-ci? Allô? Voilà. Ah, on vous entend là cette fois-ci maintenant, Nicolas.
Bonjour à tous.
Alors, on commençait à se dire, on se disait que c'était une censure imposée par Madame von der Leyen qui vous avait frappé,
Missile particulier.
Alors, est-ce que vous avez pu entendre ce qu'a dit notre éminent collègue, le professeur Perron?
Non, du tout.
Alors, on a parlé de l'antivirus, on a parlé d'Ebola, on n'a pas parlé encore d'éthique, mais ça va venir. Mais il y a quelque chose qui, politiquement, se dégage de tout ce qu'on a dit, parce qu'on est dans une immense manipulation des foules, c'est une évidence. C'est que les certains nombres d'oligarques mondiaux, derrière l'OMS, sont à l'affût du premier virus qui passe pour le monter en épingle et pour faire avancer leur grand projet qui piétine en ce moment, qui est le fameux traité sur les pandémies. Parce que pour eux, c'est le Graal, c'est la terre promise. Il faut absolument aller vers ce traité sur les pandémies. Ça permettra de mettre en laisse une bonne partie de la population mondiale. Et c'est ça, apparemment, le but recherché. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que c'est trop grossièrement manipulé, l'histoire du hantavirus avec le chauffeur de bus et les policiers en t-shirt et les infirmiers en scaphandre, ça n'a pas de sens. L'apparition du virus de la variole du singe à 15 points différents de la planète simultanément, on voit bien que c'est artificiel. L'apparition de ce hantavirus sur un bateau avec des contagions entre passagers, ça paraît extrêmement bizarre. Donc on a l'impression d'une grande manipulation. Surtout que tous ces gens-là annoncent à l'avance ce qu'ils vont faire. À chaque fois, c'est ce que dit Perron. Ils disent avant et ils le font. Donc il y a bien un complot et il est à ciel ouvert. Simplement, les gens n'y croient pas. C'est comme quand Hitler disait « je vais exterminer les Juifs ». On dit « mais non, il ne fera pas ça, vous pensez, mais non, ça c'est de la politique ». Bah si, et puis après, on a vu qu'il était capable de faire pas mal de nuisances quand même. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de toute cette agitation qui, à ce moment, est un peu en sourdine à cause de la guerre avec la Russie et puis le détroit d'Hormuz. Mais ça va revenir, à mon avis.
Non, mais je crois que c'est une... Il y a manipulation, bien sûr, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas nous refaire le coup du Covid. Il s'agit, en fait, de redorer le blason de l'OMS, qui en avait besoin, de faire pression sur les États... par rapport bien déjà aux États qui ne veulent plus adhérer, comme les États-Unis, comme l'Argentine.
Et l'Argentine, oui.
Après, vous avez les traités pandémiques. Je suppose que tout ça, ce sont des choses dont le professeur Perron a dû parler.
Hein. Oui, oui.
Je ne vais pas le répéter 100 fois. Donc, pour moi, très clairement, il s'agit d'une manipulation, mais d'une manipulation dont l'objectif n'est pas le confinement, la vaccination pour tous, même si on a pu voir tout de même que Moderna était en train de préparer un vaccin par rapport à l'antivirus. Donc, on nous explique que voilà, ça pourrait aider. Après, vous avez Mme Stéphanie Rist, hein, qui est notre ministre de la Santé. C'est certainement la ministre de la Santé, et pourtant, Dieu sait que les autres n'étaient guère mieux.
Oui, Véran, c'était pas terrible.
Il y a plus de conflits d'intérêts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Elle est la voix de Big Pharma, Stéphanie Rist. Stéphanie Rist a expliqué que, heureusement, que nous avions fait les bons dépistages. Enfin, nous, l'OMS avait fait... Les États avaient fait les bons dépistages, les bons suivis,
Les bonnes méthodes,
les bonnes quarantaines. Parce que sinon,
C'est ce que je disais tout à l'heure. Le Figaro a fait tout un article en disant, grâce à l'excellente gestion du coronavirus, nous avons pu cette fois-ci éviter la catastrophe. Non, mais avant, parce qu'il disait, d'aucuns ont critiqué la gestion du coronavirus, et à juste titre. Mais on voit a posteriori à quel point elle était juste et efficace, parce que c'est ça qui nous a permis d'éviter une nouvelle catastrophe planétaire avec ce bateau.
C'est incroyable.
Les gens y croient.
Parler de cluster, et si les gens sont assez stupides pour le croire, on ne peut plus rien pour eux.
Je suis bien de votre avis. Vous savez, je cite toujours cet exemple. Quand j'ai un jour demandé à des étudiants combien faisait en pourcentage 410 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, tous m'ont dit, mais monsieur, ça fait 41%, évidemment. Et je dis, mais enfin, calculez. Ah ben non, la calculette ne peut pas, il y a trop de zéros. Et je dis, mais enfin, voyons, 410 personnes sur un million de personnes, vous voyez bien que ça ne peut pas faire 41%. Et la réaction d'une étudiante qui me dit, mais enfin, monsieur, Greta Thunberg, elle le sent dans la rue, donc c'est bien la preuve qu'il y en a beaucoup.
C'est sûr.
Alors évidemment, ces gens-là, vous pouvez leur faire croire absolument n'importe quoi.
En tout cas, moi, mon expertise d'infectiologue, c'est que la bêtise est plus contagieuse que les virus.
C'est très juste. Ce que vous dites est très juste. Pourquoi elle est contagieuse ? Parce qu'il y a la peur, et la peur d'être exclu ou de perdre certains avantages. C'est ce qu'ils sont tous très corporate, comme disent un de nos amis qui était médecin interne et qui a les mêmes opinions que nous. Ils disent qu'ils sont très corporate parce que c'est une mafia. Et si on rompt la loi du silence, c'est extrêmement grave. Parce qu'à ce moment-là, on porte atteinte à l'intérêt des autres, à des intérêts financiers puissants. Il dit, quand vous avez 30 milliards à gagner, c'est plus que vous ne pourriez en gagner dans plusieurs existences cumulées. Hein. Et c'est vrai, ça. C'est malheureusement là-dessus qu'ils se fondent beaucoup. Hein. C'est pour ça que la propagation de la bêtise, et puis il y a une tendance naturelle de l'homme. Voilà. Donc, alors, reprenons Nicolas Stocker. Oui, on est d'accord avec vous. Oui, il y a une volonté de réhabilitation des politiques sanitaires qui ont été controversées ces dernières années.
Oui, et puis parce que je vous dis, il y a les traités pandémiques, il s'agit d'imposer aux populations, de leur expliquer que l'OMS est indispensable à la survie de l'humanité, tout simplement.
Tout
et puis on en remet une petite couche par rapport au coronavirus. Après, vous avez eu l'Ebola, enfin autant de virus, antivirus Ebola, qui sur le risque de pandémie est nul, puisque de toute façon, et je parle sous l'autorité du professeur Perron, on n'aura pas une compte. De toute façon, il y a toujours le curseur entre la mortalité et la contagiosité. C'est-à-dire que plus il est mortel, moins il est contagieux.
Et vice versa.
Et moi, je pense que ils ont derrière la tête à la fois Tedros, probablement Ursula, c'est de nous imposer, c'est leur projet, hein, nous imposer le passeport vaccinal, en plus de l'identité numérique et tout ça.
Oui, tout à fait. Du contrôle permanent par l'intelligence artificielle. Alors, je parlais de cette équation. Un virus peut être soit très létal, mais peu contagieux, soit très contagieux et peu létal. Et on m'a dit, non, n'importe quoi, vous n'y connaissez rien. La preuve, la grippe espagnole était très létale et très contagieuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette objection ?
Maintenant, moi, à l'époque, la grippe espagnole, je pensais vraiment que c'était naturel, que le virus était arrivé des États-Unis avec le contingent américain. Maintenant, alors c'est peut-être des complotistes fous furieux, je ne sais pas, parce que je n'ai pas analysé le dossier, puis on n'a pas vraiment de traces et d'archives, mais il y a des gens soi-disant bien informés qui disent qu'il y aurait eu des essais sur l'armée américaine pour des vaccins et que ça aurait mal tourné. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais revu dans l'histoire une grippe qui a tué autant. On nous a fait le coup de la grippe de Hong Kong, la grippe... Mais bon, il y a eu des morts, mais toutes les pandémies de grippe qu'on a vues après, c'était de la rigolade à côté de la grippe espagnole. Donc maintenant, avec le recul, je ne peux pas du tout trancher parce que personne n'a accès vraiment aux archives de l'époque. Il n'est pas impossible que cette grippe n'ait pas été si naturelle que ça.
Alors, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que, mais je pars sous votre contrôle parce que c'est vous qui connaissez, peut-être qu'un virus devient très contagieux et très létal lorsqu'il bénéficie, à titre temporaire, de gains de fonction dont il va se débarrasser progressivement, ce qui était possible du coronavirus au départ.
Parce que
fin 2019, nous avons rencontré des gens qui l'ont eu, très probablement. Ils ont été extrêmement malades. D'ailleurs, on le savait, hein, il y a beaucoup de nous, nous avons quelqu'un qui était malade pendant 3 semaines avec 42 fièvres. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Tout le monde disait, c'est une mauvaise grippe. Et donc, il était très létal et très contagieux. Et puis, il a perdu ses gains de fonction parce que le professeur, pas Raoult, mais par contre, ni Perron, mais Montagnier, disait, c'est comme quand vous attachez un grelot au cou d'un chat. Ça l'énerve et au bout d'un certain temps, il s'en débarrasse. Parce que ça le gêne, parce que c'est pas naturel, c'est pas dans sa logique à lui. Et c'est peut-être ça l'explication, effectivement. Alors, on a dit aussi que les gens avaient découvert l'aspirine et qu'ils s'étaient bourrés dangereusement d'aspirine pour atténuer les symptômes, que les gens avaient souffert des privations de la guerre, etc., des mauvaises conditions sanitaires. Il y aura eu aussi un faisceau de facteurs qui aurait expliqué cette guerre grippe espagnole.
Je crois qu'on n'aura jamais vraiment l'explication sur cette histoire qui était très bizarre dans l'histoire des épidémies, quand même.
Mais en tout cas, la grippe de Hong Kong, dont on parlait tout à l'heure, il y a 5 minutes, nous l'avons attrapée. Elle était extrêmement mauvaise.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, Libération avait fait un très bon reportage sur la grippe de Hong Kong en 1969-70, et il montrait qu'elle était tout aussi dangereuse que le coronavirus, simplement elle passait sous les radars parce que ni Georges Pompidou, ni Mesmer ne s'y intéressaient, et on a considéré que ça faisait partie des aléas de l'existence. Et ça a été laissé au ministère de la Santé, mais à Buckingham Palace, tout le personnel était malade. Les fêtes de fin d'année ont été supprimées, le métro londonien a été fermé pendant une semaine. Nous, on l'a attrapé, je veux vous dire que quand j'ai eu les premiers symptômes, c'est comme si la foudre m'était tombée dessus. On était littéralement terrassés. Jamais de ma vie, je n'ai ressenti la même chose. On était terrassés. Pendant 3 jours, et puis moi je m'en suis sorti, j'avais 14 ans. Bon, la vie est très forte à ce moment-là, mais mes parents ont eu des séquelles pendant des années. Et alors, je me souviens, le détail, c'est qu'après, il y avait des complications pulmonaires chez les gens d'un certain âge, dont mes parents. Et alors ma mère avait dit, c'est curieux, cette nuit, quand je respirais, j'ai l'impression que c'était des lichens qui bruissaient dans mes poumons. Et mon père, qui était médecin, qui était malade comme tout aussi, a dit « il en riait, dit, heureusement, enfin c'est moins grave que si c'était la guerre ». On se souvient. C'était la réaction dans les années 70. Alors qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe là ?
L'heure tourne, il faudrait qu'on parle d'éthique.
Alors on va parler d'éthique. Nicolas, est-ce que vous pouvez laisser notre ami Christian Perron nous parler d'éthique ?
Ça va être très intéressant, l'éthique
améliorée, l'éthique avec des gains de fonction.
Quand je racontais ça il y a longtemps, dans mon livre La vérité sur la maladie de Lyme, que j'avais publié chez Odile Jacob il y a pas mal d'années, il y avait déjà beaucoup d'éléments montrant que l'éthique avait été modifiée par les nazis, les japonais, puis après par les américains, pour créer la maladie de Lyme. En fait, la Borrelia, la bactérie transmise par l'éthique qui donne la maladie, elle existe depuis la nuit des temps. On en a même retrouvé chez une momie congelée d'il y a plus de 5000 ans.
Ah oui, quand même.
Mais elle a été modifiée. Et comme l'épidémie est tombée sur la petite ville de Lyme, qui était à 20 km du centre de recherche, ils ont été embêtés, puis ils ont préféré camoufler l'affaire, parce que, en plus, ce n'étaient pas les Américains qui étaient responsables des épidémies en Europe ou en Sibérie. Là, c'était les Japonais, les Allemands, mais... Ils se sont dit, si on commence à reconnaître qu'une fuite de labo, on est foutu, il va falloir payer des milliards d'indemnisations. Et donc, ils ont nié. Donc, ils ont corrompu tous les chercheurs, les sociétés savantes, les centres de référence, les journaux médicaux, pour passer à un langage officiel, que la maladie de Lyme, c'est tout à fait naturel, que c'est une maladie bénigne qui est très rare. Ils ont mis au point des tests de diagnostic, la fameuse sérologie. pour ne dépister que 5% des gens malades, comme ça, ça reste une maladie rare.
Évidemment.
Et puis les autres, on dit soi-disant traitement antibiotique, c'est 2-3 semaines maximum d'antibiotiques, tout le monde est guéri, ce qui est complètement faux. C'est comme si on guérissait la tuberculose en 3 semaines d'antibiotiques. Il faut quelquefois des mois, voire quelquefois même des plus longtemps. Donc on a véhiculé ça dans tous les grands journaux médicaux les plus importants du monde. Mais tout est sorti, ça y est. Les archives de la CIA sont sorties. Kennedy en a parlé, il a fait une table ronde aux États-Unis en parlant de ça. Et je vous recommande de lire quand il va sortir. Il existe déjà en anglais, mais pour ceux qui attendent la version française, il y a le livre qui s'appelle « Bitten » en anglais, c'est-à-dire « Mordu par la tique ».
Oui.
En français, ça s'appellera « Mordu » par Chris Newby. Alors, Chris, c'est K-R-I-S.
Oui.
Son prénom est Newby, N-E-W-B-Y. Et Chris Newby a eu les archives secrètes de Willy Borglerfer. Là, je ne peux pas tout raconter,
parce que c'est
comme un roman policier. Et il y a toutes les preuves que Willy Borglerfer a bien trafiqué des bactéries.
À titre militaire,
à des fins militaires. Il a eu des regrets à la fin de sa carrière. Quand il a commencé à être en retraite, il a caché des archives parce qu'il savait que la CIA allait tout brûler.
Ah oui.
Et il a eu des remords parce qu'au début, il était enthousiaste. Il est arrivé tout jeune aux États-Unis. On va lutter contre les communistes, la guerre froide.
Ah oui.
Et après, quand il a vu qu'il y avait une énorme épidémie aux États-Unis, que le gouvernement mentait aux gens, aux médecins, il a été écœuré. Il avait commencé à en parler un petit peu.
C'était un Allemand immigré ?
C'était un Suisse-Allemand de Bâle.
Oui.
Qui travaillait, qui était le grand spécialiste des Borrelia dans le monde, mais parce qu'il y avait d'autres, il n'y a pas que les Borrelia de l'âme, il y a des Borrelia en Afrique depuis la nuit des temps qui donnent ce qu'on appelle des fièvres récurrentes. C'est d'autres types de fièvres.
Oui.
Il y a beaucoup d'espèces de Borrelia tout à fait naturelles. Mais il était tellement écœuré qu'il a
tout balancé.
Il a donné à Chris Newby, avant de mourir, ses archives.
Oui.
Et c'est elle qui a pu le publier. Donc maintenant,
On a tout l'historique.
Tout ça est prouvé. C'est pour ça que maintenant, je dis, tous ces centres de référence en France, tous ces infectiologues qui envoient balader les malades en refusant de les traiter, en disant que les tests sont parfaits, même les ministres de la Santé, je leur dis, attention, à partir d'aujourd'hui où tout est révélé dans le monde...
Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Vous n'avez pas le droit, et ça devient de la non-assistance à personne en danger. Et il y aura des répercussions juridiques.
Ah,
j'en suis persuadé. Parce qu'on ne peut pas mentir aux malades comme ça. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Ils ont profité que j'étais plus aux manettes dans plein de commissions. Oui. La Haute Autorité de Santé est revenue en arrière sur les quelques avancées que j'avais obtenues dans les recommandations sur la maladie de Lyme. Mais maintenant, les malades pleurent. Il y en a des centaines de milliers en France qui ne trouvent plus de médecins. Ils ont radié des médecins pour l'exemple et les autres ont peur. Donc c'est horrible.
Comment on fait aujourd'hui quand on a un médecin récalcitrant comme ça? Il y a un pays où on peut faire au moins le diagnostic, pas à 5%, mais un peu mieux
Il y a des pays en Allemagne, aux États-Unis. Alors, tous les tests un peu alternatifs, il y en a qui sont nuls, il y en a qui sont meilleurs. Mais de toute façon, les tiques ne transmettent pas que la Borrelia, elles transmettent des noms latins, Rickettsia, Babesia,
plein de
bestioles. Et c'est pas parce qu'on a un test positif ou non qu'on n'a pas une maladie transmise par les tiques. On appelle les MVT, maladies vectorielles à tiques. Et c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que moi, je me fous un peu des tests. Je n'ai rien à faire. Bah, je regarde, j'élimine un autre diagnostic, un cancer, une tuberculose, une maladie connue. Et si on ne trouve pas la cause, on fait un traitement d'épreuve, ce qui était accepté d'ailleurs par la Haute Autorité de Santé.
Alors, il y a aussi ce tout nouveau tic dont nous parlions tout à l'heure qui apparaît et qui rend les gens allergiques à la viande, à la consommation de viande.
À la viande rouge, oui.
Alors, qu'est-ce que c'est? C'est sérieux, ça?
Ah oui,
c'est
ça.
Cette histoire
chez les bovins, puis quelques autres, je crois, chez les porcs. Mais pas chez les volailles. Il y a une enzyme, ou je sais plus, une substance chimique qui s'appelle la galactose, je ne sais pas quoi, galactose, au moins deux fois. Donc, ça s'était raccourci en alpha-gal, c'est alpha-galactose avec un nom chimique très compliqué. Et donc, quand on est piqué par les tiques, on peut devenir allergique définitivement à la viande rouge. Il y a des rares cas mortels, heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas mortel. Alors, on a appris assez récemment, moi j'avais entendu parler, parce que c'est une maladie qui est apparue comme ça bizarrement, très récemment, il y a 15-20 ans, je ne sais plus la date exacte, et maintenant c'est sorti dans les archives de la CIA qu'ils avaient aussi trafiqué des tiques pour rendre allergique à la viande rouge.
Et pourquoi faire ?
Parce que comme ça, vous ne mangez plus de viande, vous mangez de la viande synthétique, des OGM, vous mangez de la farine de cafard, vous devenez végétarien.
Vous êtes obligé de vous alimenter autrement.
Ouais, mais pourquoi ils sont en train de détruire la paysannerie française?
Oui, c'est évident.
Et l'élevage.
Oui, et l'histoire des vaches en Hollande aussi. Mais alors, ces tiques qui rendent allergiques à la viande rouge, ils sont dans quelle région?
Parce que alors, il y a la tique principale, c'est une tique américaine qui s'appelle la tique étoilée, parce qu'elle a une tache blanche en forme
c'est
d'étoile.
C'est ce que disiez tout à l'heure.
La Lone Star tique, mais... Bon, il y a je crois que c'est l'INRA à Nancy. On trouve quelquefois cet alpha-gal dans d'autres tiques, y compris les tiques françaises. Et peut-être qu'à l'état de trace, elle est peut-être naturelle, mais je pense qu'il y a des tiques qui ont été trafiquées. C'était surtout dans la région sud-est des États-Unis, il y avait
bon,
ces tiques.
Donc il faut éviter d'aller se promener.
Alors, si vous allez en Australie, si vous avez l'allergie à l'alpha-gal, mangez pas de kangourou, parce qu'il y avait un foyer qui est apparu bizarrement juste à côté de Sydney. Et qui rendait aussi allergique à la viande de kangourou, parce que c'est que les Australiens mangent...
Beaucoup de viande de kangourou.
Voilà.
Mais Nicolas, vous étiez au courant de cette nouvelle tique qui rend allergique à la viande rouge et qui plaît beaucoup à Mme von der Leyen, d'ailleurs, parce que...
Absolument, entre autres, en écoutant ou en lisant le professeur Perron, bien sûr. On était au courant de cette nouvelle tique-là qui, en effet, l'allergie va permettre, en effet... Bill Gates, on le sait, a énormément investi dans les viandes de synthèse.
Ah oui.
Et bien bientôt, ça ne sera pas compliqué. Vous me demanderez une entrecôte, je vous la ferai avec une imprimante 3D.
C'est ça. Et un peu de pétrole. Comme on ne pourra plus brûler le pétrole, on l'utilisera pour faire de la viande de synthèse.
Oui, évidemment. Et puis, en effet, sinon, vous pourrez agrémenter ça d'un succulent pain à la farine de cafard, excellent, bien sûr. Mais bien sûr, c'est de toute façon, regardez les derniers accords multilatéraux liés à l'OMC cette fois-ci, et vous verrez que ce soit le Mercosur, on a aujourd'hui, ça y est, ça arrive à toute vitesse. Madame von der Leyen a accéléré la procédure, alors qu'il y avait normalement la Cour européenne de justice qui devait statuer en dernière instance sur ces traités. Et ça commence déjà à toute vitesse. On veut accélérer. Il y a du business, il y a de l'argent, il y a de la corruption aussi.
Beaucoup. Vous pensez bien que c'est
avec
ce sont les conflits d'intérêts.
Le Bruxelles, vous avez énormément de corruption qui tend à poursuivre. Ce libre-échange qui est dévastateur pour notre paysannerie, pour notre agriculture. Et puis, vous avez eu la dermatose nodulaire qui a permis, en effet, aussi de vacciner à tout va et d'abattre nos bovins.
Les bovins.
Donc, tout ça est une politique, à mon avis, totalement concertée. Nous sommes aujourd'hui entre les mains d'oligarques, nous sommes entre les mains de l'OMS, de l'OMC, et puis des oligarques comme Bill Gates et d'autres.
Je voudrais qu'on invente une tique pour tuer la corruption.
Ça pourra peut-être arriver, on va faire des recherches, on compte sur vous, professeur Perron, parce que vous avez votre laboratoire secret, là. Et je sais que ce soir, vous retournez, après avoir mangé un bon steak au pétrole, vous allez retourner travailler. Bon, écoutez, en tout cas, c'était tout à fait captivant. On est content de vous avoir invité, parce que ça a permis de faire une petite piqûre de rappel, en matière de vaccin. Attendons de voir ce que le hantavirus nous réserve, la Ebola. Actuellement, on est plutôt sur les frappes... russe sur Kiev. Il paraît qu'il y a une frappe imminente, puisque l'on a conseillé à l'ambassade des États-Unis d'être évacué, n'est-ce pas? Lavrov a appelé la Maison Blanche pour prévenir.
On entre dans une situation d'escalade. Vous avez même un
Absolument.
Général qui conseillait Angela Merkel, le conseiller spécial d'Angela Merkel, qui a expliqué dernièrement sur YouTube que nous allions tout droit vers la guerre
avec la
Russie. Ce n'est une question de semaines ou de mois.
Exactement.
Nous n'arrêtons pas les fous furieux qui nous dirigent, ces chevaliers de l'apocalypse, les Merz, les Starmer, les Macron, les von der Leyen.
Écoutez, nous ferons une émission peut-être au mois de juin là-dessus, parce qu'il y aura certainement
s'il
du nouveau.
S'il n'est pas trop tard,
si nous n'avons pas été vitrifiés entre-temps. Merci, chers auditeurs. Merci, Christian Perron.
Merci beaucoup.
Nicolas Stocker. Et merci.
Vous venez d'entendre Droit et Liberté, dirigé par Olivier Tourlinfon, assisté de Marc de Staël, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 26 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.